Voilà, bonjour. Pendant que les feuilles circulent, il devrait y avoir assez pour tout le monde. Vous n'inquiétez pas. Sinon, de toute façon, ils sont déjà sur le site. Et puis, monsieur le régisseur m'a dit que la semaine prochaine, je ferai autrement. Je le transmettrai le matin et puis vous le prendrez à l'entrée, ce qui probablement facilitera un peu la tâche. Bien. Pour le moment, vous n'avez pas encore besoin de ces feuilles-là, qui est donc la traduction de Genèse 17, donc le texte suivant que nous allons voir. Mais nous devons encore terminer d'abord notre analyse de Genèse 19, donc un texte qu'on a distribué la semaine dernière et donc qui est aussi disponible sur le site du Collège de France. Donc vous allez sur Milieu biblique, vous avez, donc ça je vous rappelle, il devrait y être ce matin, au moins il y était, donc je ne sais pas depuis quand, mais ce matin il y était. Donc vous trouvez également sur ce site les diapos que je vous montre, donc c'est aussi un résumé, donc vous n'avez pas besoin de prendre trop de notes, ça peut aussi vous faciliter la tâche. Donc j'aimerais encore profiter pour vous présenter, alors je vous ai déjà présenté Michael Burki la semaine dernière, et puis j'aimerais vous présenter maintenant aussi mon deuxième alter, M. Hützli, Jörg Hützli de Zurich, qui va également travailler avec moi pendant les 2 ans à venir. Donc, si vous avez des questions, vous avez 2 personnes. Puis la troisième, si un jour elle arrive à l'heure, je peux aussi vous la présenter, c'est Stéphanie, mais elle est tout à fait excusée parce qu'elle donne des cours à Lille le matin, donc c'est un peu difficile quand même. Voilà. Et puis une dernière chose, on m'a posé des questions concernant la durée du cours, parce qu'il y a des gens qui ont dit « mais pourquoi ce n'est pas 90 minutes comme la dernière fois, mais 60 minutes ?» Alors, normalement, l'heure normale d'un cours est 60 minutes. L'année dernière, on était obligé de condenser sur 90 parce qu'on a dû changer de salle et cette salle-là, dans laquelle vous êtes maintenant, elle n'était pas disponible pour les 12 séances que j'avais prévues l'année dernière. Donc, on a dû condenser à 90 minutes. Mais j'ai vu à la fin, certains étaient un peu fatigués. Donc, je me suis dit 60, c'est peut-être bien. Donc là, on va y avoir 60 minutes, ce qui vous permettrait également de suivre, à partir de la semaine prochaine, je pense, le cours de mon collègue M. Durand en assyriologie. Donc voilà, ça vous fait une très belle transition. Vous pouvez boire un café et puis après. Et d'ailleurs, les deux thèmes sont quand même un tout petit peu liés, donc c'est bien que ça se ne chevauche pas. Voilà. Alors, nous nous sommes arrêtés la semaine dernière à l'histoire donc de Lot et ses visiteurs qu'il a accueillis à la manière d'Abraham et donc le problème c'était la réaction des habitants de Sodome qui finalement va provoquer selon l'histoire la destruction de la ville. Donc nous avons vu les parallèles entre l'hospitalité de Lot et l'hospitalité d'Abraham, avec bien sûr aussi des différences, notamment au menu, par rapport au menu que les deux proposent à leur hôte. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Maintenant, nous allons donc nous intéresser au verset 4, où en fait on va insister sur le fait que tous les habitants de Sodome vont se rassembler devant la porte de Lot, ce qui est un peu difficile à imaginer, n'est-ce pas? Mais là, nous sommes dans le récit. Donc, le texte dit toute la ville sans exception. Et ça veut dire aussi, si vous prenez le commentaire du narrateur ici à la lettre, même les futurs gendres de Lot font partie, en fait, des gens qui menacent Lot devant la porte de sa maison. Alors, le verset 5 a provoqué des discussions interminables quant au sens de cette demande. Parce que qu'est-ce qu'ils demandent? Les habitants de Sodome, fais-les sortir pour que nous les connaissions. En hébreu, c'est la racine yada qui veut dire d'abord connaître, savoir. Mais en même temps, vous le savez sans doute, yada, c'est aussi voilà, un euphémisme pour avoir des rapports sexuels. Adam connut Ève, donc vous connaissez l'histoire. Alors, comment faut-il comprendre ici la demande des habitants de Sodome. Il y a des exégètes comme Bailey et d'autres, je vous mettrai les références bibliographiques également sur le site, qui disent en effet que la racine yada peut simplement signifier faire connaissance avec. L'idée étant qu'il y a des étrangers qui sont arrivés le soir chez un étranger, parce que Lot lui-même est un étranger, on n'a pas pu faire les contrôles, on ne sait pas de qui on a affaire, et la seule question, ou disons la seule demande de ces habitants aurait été de vérifier l'identité de ces voyageurs. Théoriquement, ça fait du sens si vous prenez seulement le verset 5. Mais est-ce que ça fait du sens dans la suite ? Dans la suite, ça ne le fait pas de sens. Déjà, Lot lui-même comprend en effet la demande comme une agression sexuelle. Donc là, je pense, la réaction de Lot montre que lui, au moins, comprend ce que font les habitants de Sodome comme autre chose que simplement faire connaissance. En même temps, la réaction de Lot pose une question, parce que, comme vous le savez, et je reviendrai sur cette question, on a toujours utilisé cette scène-là pour parler d'homosexualité. Vous savez peut-être que le terme de sodomie vient évidemment de ce récit de Genèse 19, avec une différence linguistique assez intéressante, si je peux me permettre cette petite digression, parce qu'en fait, en français et en anglais, sodomie désigne en effet des rapports homosexuels, surtout entre hommes, avec l'idée d'une pénétration. Par contre, en allemand, sodomie, c'est des rapports sexuels avec les animaux. Donc ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Donc ce sera intéressant aussi de voir un peu l'évolution de ce terme. Donc cette histoire a été apparemment aussi comprise différemment. Maintenant, est-ce que l'enjeu de ce texte est ce qu'on appelle, nous, l'homosexualité ? Je ne pense pas. Ce qui est en jeu ici n'est pas l'homosexualité, c'est d'abord l'atteinte à l'intégrité des invités. C'est le viol, c'est le non-respect de l'hospitalité. Si vous regardez le texte dont je vous ai parlé la semaine dernière, le texte de Juges 19-20, voyez que c'est la même histoire, mais seulement là, la demande des agresseurs n'est pas du tout de vouloir l'homme, mais c'est simplement là aussi une agression sexuelle par rapport aux invités que le vieillard accueille. D'ailleurs, on peut voir que tous les textes prophétiques de la Bible qui parlent de Sodome inventent toutes sortes de choses qu'on peut reprocher aux habitants de Sodome. Si vous prenez par exemple ce texte d'Ézéchiel, voilà quelle fut la faute de ta sœur Sodome, qui est ici présenté comme une sorte de personnification, orgueilleuse, répue, tranquillement insouciante. D'autres textes encore parlent simplement du non-respect de la loi, du droit. Donc on n'a pas une tradition enracinée par rapport à un certain comportement sexuel. Donc c'est plutôt une diversité dans la description du comportement de Sodome qu'on trouve dans le texte biblique. Et si vous prenez le récit, on peut très bien voir que ce qui est en jeu, c'est la transgression du respect de l'hospitalité. Parce que, en effet, il faut se rappeler, dans l'Antiquité, l'hospitalité est un des piliers pour que la société puisse fonctionner. Si vous avez un voyageur qui passe chez vous, vous ne pouvez pas lui dire allez quelque part à l'hôtel, vous devez l'accueillir. Ça fait partie en fait de vos devoirs et vous ne pouvez pas vous y soustraire. Si on s'y soustrait, on commet en effet une faute grave. Et c'est exactement cela qui est en jeu ici. D'ailleurs encore, dans le Nouveau Testament, on a compris cette histoire de cette manière. Je vous ai mis ici un texte de l'évangile de Luc, où on met dans la bouche de Jésus cette parole qui s'adresse en fait aux premiers missionnaires chrétiens, donc c'est un texte bien écrit après Jésus, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque une ville n'accueille pas les missionnaires, alors qu'est-ce qu'il faut dire ? Bah, vous allez rendre en fait la poussière qui colle à vos pieds. Et Jésus dit, je vous le déclare, ce jour-là, Sodome sera traité avec moins de rigueur que cette ville-là. Donc vous voyez très bien quel est l'enjeu ici, c'est le non-respect de l'accueil, le non-respect de l'hospitalité. Maintenant, on peut en effet se poser la question, mais d'où ça vient cette interprétation de l'histoire de Sodome et Gomorrhe en lien avec ce que nous appelons, nous, l'homosexualité. Je pense en effet que l'origine d'une telle lecture peut se trouver dans la rencontre de la culture juive avec la civilisation hellénistique à partir du 3e, 2e siècle avant notre ère. Où tout d'un coup, à Jérusalem, on construit un gymnase où on va les jeunes gens faire du sport tout nu. On est confronté à des coutumes grecques telles que la pédérastie, qui ont dû choquer quand même certains juifs pratiquants. Et on a du coup relu l'histoire de Sodome et Gomorrhe, surtout dans cette perspective-là. Les premières attestations d'une telle interprétation telle que donc, dans le sens d'une homosexualité, vous le trouvez dans des textes comme le livre des Jubilés, le Testament des 12 patriarches, bien que ça soit toujours encore exprimé d'une manière assez discrète, n'est-ce pas ? Dans le Testament de Nephtali, vous lisez l'idée que Sodome a changé son ordre naturel, où le Testament de Lévi parle des unions comme Sodome et Gomorrhe. Donc je pense en effet, c'est en effet à partir de tels textes-là que s'est imposée, et surtout dans le christianisme, cette lecture de Genèse 19 comme un traité anti-homosexuel. Donc ça, c'est en effet, je dirais, un texte qui a eu un impact majeur dans toute la civilisation judéo-chrétienne, dans la législation chrétienne. On a en effet utilisé le texte, donc si ça vous intéresse, vous pouvez lire ce livre de Maurice Levé, Les bûchers de Sodome. C'est surtout sous influence d'Augustin qui va s'appuyer sur Genèse 19 que les rapports sexuels entre hommes deviennent un crime contre nature. D'abord, et ça c'est intéressant aussi, d'abord est puni seulement le partenaire passif, parce que tout ce problème, c'est en effet un problème, non pas tellement de sexualité, mais un problème de rôle, de genre. C'est-à-dire, dans l'Antiquité, les rôles sont clairement distingués. La femme est passive et l'homme est actif. Et ça, ça ne peut pas se confondre. Donc, en fait, le vrai coupable d'abord, entre guillemets, est le partenaire passif parce qu'il change de rôle, n'est-ce pas ? Il n'est plus homme. Et c'est pour cela, on le connaît très bien des documents grecs et aussi perses, violer un prisonnier de guerre fait partie des plus grandes humiliations que vous pouvez infliger à quelqu'un parce que, en effet, vous le faites jouer le rôle d'une femme. Et ça, dans l'Antiquité, n'est-ce pas, ça, c'est quelque chose d'impardonnable. Donc d'abord, c'est ça ce qui est, en effet, en jeu. Ensuite, chez l'empereur chrétien Théodose, à la fin du IVe siècle, l'homosexualité en tant que telle, disons, les rapports sexuels entre hommes sont punis par le bûcher, et puis ça continue jusqu'à la Renaissance. Donc, ce n'est pas le sujet de ce cours, donc je ne veux pas m'arrêter plus sur cette question. Seulement, quand même, pour vous rappeler que le concept d'homosexualité appliqué à ces textes est en quelque sorte un peu un anachronisme, n'est-ce pas ? Parce que, comme on le sait très bien, c'est un terme, en effet, qui a été inventé au XIXe siècle, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de terme pour homosexualité dans les langues anciennes. Donc, un concept d'homosexualité tel qu'on l'a aujourd'hui s'applique difficilement à ces textes-là. Donc, je pense qu'il faudra aussi faire attention à, quand on fait la lecture de certains textes avec des concepts modernes. Ce qui est en jeu, donc, en Genèse 19, c'est le non-respect de l'hospitalité. Ce qui est en jeu dans d'autres textes bibliques, comme dans le Lévitique, on dit « tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme », ça, c'est en effet des interdits qui veulent éviter toute confusion de rôle. Ça, c'est le plus important. Donc, ce n'est pas, si vous voulez, une question tellement d'éthique sexuelle, ce qu'il deviendra après dans le christianisme, ça, c'est plutôt une idée de rôle. Maintenant, revenons à notre texte et regardons le comportement de Lot, qui a aussi quand même choqué beaucoup de commentateurs. Parce que qu'est-ce qu'il fait, Lot ? Il propose en fait, oui, il propose ses deux filles à la place des invités, n'est-ce pas ? Il dit, voilà, j'ai deux filles, je vous les livre et vous leur ferez ce que bon vous semble. Alors, comment il faut comprendre cette réaction ? Alors, Delitzsch, un commentateur chrétien, a dit justement, Lot, c'est immoral, il veut parer au péché par un autre péché. Benno Jacob, un commentateur juif, a dit de toute façon, les sodomites n'auraient pas accepté l'offre. Alors, ça, c'est aussi une manière assez facile de résoudre le problème, n'est-ce pas ? Mais je crois la question, c'est un peu plus compliqué. En fait, Lot se trouve en effet dans un vrai dilemme éthique, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le double bind ou la double contrainte, n'est-ce pas, où il y a en effet deux principes qu'il faut défendre. Donc Lot, évidemment, en tant que pater familias, doit absolument défendre l'intégrité de ses filles. En même temps, il doit aussi absolument défendre l'intégrité de ses invités. Et c'est ça, en fait, qui explique ce qui peut nous paraître choquant, mais qui, dans le récit, montre plutôt un dilemme. On va retrouver ça à la fin du récit avec les filles de Lot, n'est-ce pas ? Ici, c'est Lot qui veut utiliser ses filles pour sauver les invités, mais alors en proposant quand même des choses qui posent problème sur le plan éthique. À la fin, c'est les filles, nous allons le voir, qui vont utiliser le père aussi pour des rapports sexuels qui normalement ne sont pas licites puisqu'il s'agit d'inceste. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que, en effet, Lot devient d'une certaine manière, on peut dire tragicomique, mais en même temps, maintenant je suis moins sûr de ça. Ceci dit, il est clair que le verset 8 où lui veut utiliser ses filles renvoie déjà à la fin du récit où c'est les filles qui vont utiliser leur père. La réaction des habitants de Sodome est brutale et puis il rappelle en fait à Lot qu'il est simplement un étranger comme justement ses invités. Et c'est justement les Anachim, donc là il y a aussi un jeu de mots en hébreu, donc les invités qui vont sauver Lot des Anachim, mais donc là des hommes, des habitants de la ville. Avec toutes sortes de jeux de mots que je ne peux pas tous vous commenter maintenant, mais seulement que Lot, au verset 3, les avait invités d'entrer avec la racine Bo dans sa maison, et maintenant, c'est eux qui, en fait, font entrer Lot dans sa propre maison, parce que Lot, en effet, vous vous souvenez, était sorti devant sa maison, avait fermé la porte, n'est-ce pas ? Et maintenant, c'est les invités qui le font rentrer pour donc éviter qu'il soit lui-même victime de l'agression des habitants de Sodome. Ce que font les invités, c'est qu'ils aveuglent en fait les habitants de Sodome, ce qui, évidemment, maintenant, apprend au lecteur ou à l'auditeur de cette histoire que ce n'est pas des hommes ordinaires, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'est des hommes qui ont un pouvoir. C'est au moins des prophètes, puisque le seul parallèle avec ce mot qui vient en fait de l'acadien, c'est une sorte d'euphémisme, puisque normalement le mot veut dire donner de la lumière, mais c'est justement utilisé dans le sens contraire. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Donc le parallèle se trouve dans l'histoire du livre des rois, où c'est justement un prophète, Élisée, qui fait le même miracle par rapport à l'armée araméenne. Donc le thème de l'aveuglement est en effet un thème assez courant dans le Proche-Orient ancien. C'est annoncé comme punition dans les traités de vassalité, n'est-ce pas ? Et c'est également une malédiction de manière générale. À Ougarit, on l'a aussi dans l'épopée d'Akkad, donc on n'a pas besoin d'aller dans tous les détails. Mais ce que signifie ce geste, c'est que le lecteur sait maintenant quelle est la nature de ses invités à qui il a affaire. Et les habitants qui voulaient connaître, savoir, sont maintenant frappés d'aveuglement, là aussi, si vous voulez, à retournement ironique. Maintenant, nous passons aux deuxième scène du récit où Lot est sauvé de la destruction. Lot est le sien. Donc ça, c'est évidemment aussi un thème qu'on trouve dans le récit du déluge, à savoir que le juste doit être sauvé avec tous ses siens. Donc là, Lot joue un peu le rôle de Noé et de sa famille. Alors, les gendres de Lot sont exclus de ce sauvetage. D'ailleurs, c'est des drôles de gendres parce qu'ils n'habitent pas dans la maison de Lot. Et Lot, lorsqu'il présente ses filles aux agresseurs, dit que ce sont des filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Donc, c'est un peu curieux comme terme, gendre, ici, n'est-ce pas ? Donc on pourrait imaginer qu'il s'agit peut-être de futurs gendres auxquels les filles sont promis, mais apparemment le mariage n'est pas encore conclu. Évidemment, leur exclusion est nécessaire pour la suite du récit, parce qu'à la suite du récit, il faut que les filles de Lot se trouvent seules avec leur père, n'est-ce pas ? Ça, c'est justement la contre-histoire par rapport au déluge, où c'est justement les trois fils de Noé avec leurs femmes qui sont sauvés et qui peuvent donc peupler ou repeupler la terre après le déluge. Ici, justement, ce n'est pas le cas, d'où le dilemme dans la suite. L'idée d'une sorte de punition de toute une ville par une sorte de déluge est d'ailleurs un thème mythologique assez bien attesté. Vous connaissez peut-être les Métamorphoses d'Ovide, qui est assez comparable, puisque là aussi il y a un couple qui accueille en fait Zeus et Hermès déguisés en voyageurs, alors que les concitoyens le rejettent. Donc c'est un peu le même scénario que nous avons en Genèse 19. Alors, du coup, ce couple est donc épargné lors d'un déluge avec lequel les dieux punissent leurs compatriotes. Donc c'est un thème que vous retrouvez en Genèse 19, seulement que ce n'est pas un déluge, c'est un déluge, si vous voulez, par le feu et par le soufre, mais avec la même idée, donc l'annihilation, la destruction de toute une civilisation. Pour le danger du lever du soleil, parce que le texte insiste beaucoup là-dessus, il faut en fait que Lot se sauve avant que le soleil monte, Donc là, vous avez aussi des parallèles dans la Bible. Par exemple, en Genèse 32, quand cet homme inconnu que Jacob va identifier à Dieu va de nuit venir se battre avec Jacob, il va aussi devoir se retirer avant l'aurore, avant le lever du soleil. Donc, ce qui veut dire aussi que le soleil est le moment du jugement et le moment aussi où des êtres de la nuit ne peuvent plus se manifester. Donc, un thème qui après va bien sûr continuer dans toute la littérature et toutes les idées sur les vampires, etc. C'est un peu ce qui est sous-jacent aussi en Genèse 32 et d'une certaine manière aussi ici. L'interdiction de retourner qui va préparer ensuite le destin de la femme de Lot, est également un thème répandu, par exemple Orphée-Eurydice, où là également Orphée qui réussit à amenduer Hadès de laisser ressortir des enfers sa bien-aimée, reçoit comme ordre de ne pas se retourner. Évidemment, il ne peut pas respecter cet ordre et c'est pour cela Eurydice lui est donc retiré définitivement. Donc ça, évidemment, c'est une idée que nous allons retrouver dans un petit instant. Donc, nous avons déjà dit, je ne reviendrai pas là-dessus, ce dialogue qui interrompt en fait l'histoire, le dialogue entre Lot et les envoyés, mais parfois c'est déjà aussi un « il » au singulier, explique en fait l'existence de la ville de Tsoa. Donc nous avons vu ça en détail la semaine dernière. C'est certainement une insertion dans le récit pour montrer comment se fait-il que cet endroit-là, aux alentours de la mer Morte, est encore habitable, et comme nous l'avons vu, il l'était encore bien à l'époque chrétienne. Alors, la destruction de Sodome est en effet relatée assez brièvement. Ce qui est étonnant, ou ce qui est important, c'est que les hommes ne sont plus mentionnés. Maintenant, le seul acteur, c'est Yahvé. Donc ça passe en fait des envoyés qui avaient encore dit à Lot « Nous sommes envoyés pour détruire la ville ». Maintenant, en fait, c'est Dieu lui-même qui détruit la ville de deux manières. Nous avons également vu que là, il y a une cohabitation de différentes traditions. D'abord, nous avons la destruction par le feu et par le soufre. Ça, c'est en effet une idée qu'on trouve dans de nombreux textes bibliques où Dieu fait pleuvoir sur le méchant feu, soufre et tourmente, comme dans le psaume 11, ou encore en Ézéchiel 38, « Je ferai pleuvoir sur toi du feu et du soufre ». Donc ça, c'est en effet un thème tout à fait traditionnel, peut-être lié à l'origine, comme l'ont suggéré plusieurs commentateurs, à l'activité du dieu soleil. Le dieu soleil qui est aussi le dieu du jugement, n'est-ce pas, et qui justement se manifeste par le feu, par le soufre qui vient du ciel, alors que le verset 25 apparemment nous met devant une autre tradition, puisqu'on parle là d'un bouleversement, d'un renversement, et il s'agit là plutôt de l'idée d'un tremblement de terre. Donc apparemment, il existait pour expliquer la disparition de cette civilisation autour de la mer Morte. Il existait apparemment deux traditions différentes. Il y a des gens qui racontaient, ben voilà, il y a un grand feu qui tombe du ciel et qui a détruit ces villes. Et de l'autre côté, il y avait notamment dans la tradition prophétique que je vous ai montrée la semaine dernière, il y avait apparemment cette idée qu'il y a eu une sorte de tremblement de terre qui a fait que ces villes se soient écroulées. Donc on a regroupé en fait ces deux traditions. Ici, bien que le récit est concentré sur Sodome, quelques versets vont parler de Sodome et Gomorre, ou de Sodome et Léville, n'est-ce pas? Parce que là aussi, on voit en fait que le récit s'intéresse à une seule ville, mais en même temps, il y a là derrière cette idée qu'il faut en effet expliquer l'ensemble de la région autour de la mer morte. La femme de Lot, donc, dont vous connaissez le destin, cette femme de Lot va donc être transformée. Donc, cette idée d'une métamorphose a également des parallèles dans des textes du folklore mondial. Gaster, en fait, qui a rassemblé beaucoup de ces récits, cite un conte hindou où un saint, justement, qui habite dans les forêts et vit seulement des aumônes. Un de ses disciples va dans la ville pour quémander des aumônes, mais il est maltraité en effet par les habitants, à l'exception de la femme d'un berger. Et donc le saint va décider d'anéantir la ville par de nouveau un déluge, mais avant il dit à la femme de s'en aller, tout en l'interdisant de regarder en arrière. Mais évidemment, la femme désobéit et se transforme en pierre. Donc, c'est un thème qui est tout à fait comparable à ce que nous avons ici dans la Bible. C'est d'ailleurs le seul récit, au moins si vous connaissez un autre, vous me le dites, le seul récit biblique qui parle d'une telle métamorphose. C'est une idée qui sans doute s'est imposée face aux formations de sel aux alentours de la mer morte. Donc regardez ça, voilà, vous avez la femme de Lot. Il y a plusieurs de ces formations, n'est-ce pas, qui ont pu créer cette idée donc qu'il s'agit d'un être humain qui a été transformé en colonne de sel. D'ailleurs, on la trouve très bien attestée chez Flavius Joseph parce qu'il écrit « J'ai vu moi-même cette colonne car elle s'y trouve toujours. » Donc, à l'époque de Flavius, on avait encore montré la femme donc, de Lot. Il y a plusieurs candidates. Là, c'est à mon avis, ça, c'est la plus jolie. Donc, en fait, comme je vous disais déjà, il s'agit en effet d'expliquer cette formation bizarre autour de la mer morte et les villes dont il est question, Sodome, Gomorre. Alors on a essayé toujours de les localiser parce que d'autres textes parlent encore de Adma, de Tseboïm, etc. Tsoar, on l'a vu, on peut très bien la localiser ici au sud, au sud-est de la mer morte. La localisation précise, en fait, n'est pas très importante, d'autant plus qu'il n'est pas sûr que ces quatre villes, à l'exception de Tsoar peut-être, soient vraiment des villes historiques, mais peut-être plutôt des noms un peu symboliques pour des grandes civilisations qui ont préexisté dans la tradition autour de ces villes. C'est un peu comme Atlantis, n'est-ce pas? Donc, une grande civilisation qu'on imagine perdue parce qu'on est confronté à un phénomène géologique, géographique totalement étonnant. Et Abraham, en fait, dont il est peu question dans les récits, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il vient simplement observer ce que le lecteur ou l'auditeur connaît, n'est-ce pas? Abraham se lève et il vient voir ce qu'on voit quand on arrive à la mer morte, un pays de désolation, n'est-ce pas? Donc il devient en quelque sorte témoin du jugement divin dans les versets 27-28, ce qui fait évidemment aussi le lien avec le chapitre précédent où nous avons vu a lieu cette discussion entre Yahvé et Abraham sur la justice divine. Peut-on détruire, Dieu peut-il détruire une ville s'il y a des justes? Puis on s'est arrêté au chiffre 10, et puis l'histoire a montré que justement ce chiffre 10 n'a pas été atteint, et d'une certaine manière, Abraham maintenant devient témoin oculaire de ce jugement. Évidemment, dans le récit ancien, la figure d'Abraham n'est pas nécessaire, donc il peut très bien s'agir d'une histoire indépendante sans qu'Abraham y joue un rôle. Le verset 29, qui résume en fait toute l'histoire, est attribué avec raison à P, donc à ce fameux document. Maintenant, vous savez ce que c'est P, le document sacerdotal qui résume toute l'histoire, mais qui résume toute l'histoire d'une manière assez particulière, parce qu'il va dire que Lot a été sauvé à cause d'Abraham, ce que le récit ne dit pas du tout, n'est-ce pas ? En fait, Abraham est en quelque sorte la raison pour laquelle Lot a été épargné. Donc là, Abraham devient déjà, d'une certaine manière, la figure dont il avait parlé au chapitre 18, n'est-ce pas ? Il avait dit, est-ce que s'il y a des justes, peuvent-ils sauver d'autres ? Ça, c'était la question. Et là, dans la réponse du rédacteur sacerdotal, c'est justement l'idée. Il dit, ben, en fait, si Lot avait été sauvé, ce n'est pas parce qu'il était lui juste, c'est à cause d'Abraham. N'est-ce pas ? Donc Abraham devient ici une sorte de source de bénédiction, tel que c'est dit aussi en Genèse 12, qui va en fait élaborer ce concept-là. Abraham, source de bénédiction pour tous les peuples, donc aussi pour l'ancêtre des Moabites et des Ammonites. Ce qui est tout à fait typique aussi pour ce document sacerdotal, c'est la racine Zachar. Zachar qui veut dire se souvenir de, penser à, faire mémoire. Et donc, en 1929, nous avons cette idée que Elohim se souvint d'Abraham, et c'est pour cela, en fait, Lot a été épargné. Ça fait partie de toute une structuration du document sacerdotal, parce que la première fois qu'on le trouve, c'est que Dieu se souvint de Noé pour justement mettre fin au déluge et permettre en fait à une nouvelle humanité de se mettre en place. Et puis on le retrouve de nouveau, Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est juste avant la vocation de Moïse et avant le début de la sortie d'Égypte. Donc, si vous voulez, Noé, Abraham et ensuite les trois patriarches deviennent en quelque sorte, dans cette tradition littéraire sacerdotale, les moteurs qui expliquent pourquoi Dieu intervient en faveur de l'humanité, des voisins d'Israël, et finalement d'Israël même. Donc là, si vous voulez, si vous mettez ces récits ensemble, c'est un autre argument pour dire, en effet, on peut, et un jour il faudra peut-être le faire, on peut tout à fait reconstituer un document totalement indépendant, sacerdotal, qui avait écrit une première histoire allant de la création du monde jusqu'à la sortie d'Égypte, l'arrivée dans le désert, peut-être même jusqu'à la mort de Moïse, mais ça c'est un autre débat. Voilà. Maintenant, à partir de cette visite d'Abraham, l'histoire de la destruction de Sodome est terminée, mais l'histoire de Lot n'est pas encore tout à fait terminée. D'ailleurs, la mention de Lot au verset 29 donne en fait une sorte de moyen de raconter maintenant l'histoire de sa descendance, qui ne vient pas du même document, mais un rédacteur a bien fusionné ces deux traditions pour qu'on apprend maintenant comment sont nés les Moabites et les Ammonites, c'est-à-dire les deux peuples qui se trouvent donc à l'est du Jourdain. C'est un texte qui est assez facilement construit. Donc vous avez deux parties. C'est une sorte de généalogie narrative, si vous voulez. C'est une généalogie narrative où il y a les deux filles avec leur père. C'est toujours l'aîné qui prend l'initiative, qui va d'abord elle coucher avec le père, ensuite la cadette, et puis la conséquence, les grossesses et la naissance des deux peuples, Moab et Ammon. Donc, de nouveau, on peut voir qu'il s'agit probablement d'une tradition qui ne connaît pas, ou disons qui au moins ignore l'histoire de Tsoar, parce que maintenant, en fait, Lot se trouve dans une caverne. C'est très curieux. Donc, il faut d'abord qu'il déménage de Tsoar dans une caverne. Donc là, Lot est vraiment l'homme des cavernes, si on peut dire, n'est-ce pas ? C'est là où ça va se passer. Et ce n'est pas par hasard la caverne, on va y revenir. Et là, tout à fait une signification. Donc, de nouveau, nous avons des parallèles tout à fait intéressants avec le déluge, parce que la question, c'est quel avenir après la catastrophe ? Les filles vont dire il n'y a plus d'homme sur, c'est là la question de la traduction, sur Eretz. Alors Eretz, ça peut être le pays ou ça peut être toute la terre, n'est-ce pas ? Eux l'utilisent pour dire nous n'avons pas d'autre possibilité d'obtenir une descendance que de coucher avec notre père. Ça, c'est l'idée des filles de Lot. Et puis, le récit laisse une certaine ambiguïté, n'est-ce pas ? Mais c'est peut-être le reflet que là, derrière, il y a quand même cette tradition d'une catastrophe globale. L'autre parallèle avec le déluge, c'est le vin. Le vin. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'après le déluge, la première chose que Noé fait, une fois qu'il a fait le sacrifice, il invente la vigne. Et évidemment, en inventant la vigne, il fait aussi l'expérience de l'ivresse. Il ne sait pas encore gérer tout ça. Donc, il se saoule. Et il y a aussi une histoire de transgression sexuelle. N'est-ce pas ? Un des trois fils, Ham, va, dit le texte, découvrir la nudité de son père. Alors, il y a beaucoup de débats ce que ça veut dire exactement, découvrir la nudité de son père, mais apparemment, il s'agit quand même d'une sorte de viol pour lequel Ham et surtout ses descendants, les Cananéens, sont maudits. Là, c'est une autre histoire de l'interprétation aussi très dramatique, parce qu'après, dans l'Église chrétienne, mais aussi dans le judaïsme, on a utilisé ce texte pour dire que ce sont les Noirs qui sont maudits par Dieu, parce que Ham devient ensuite, dans la tradition juive et reprise par les chrétiens, l'ancêtre donc des Africains, donc des Noirs, et puis on explique... C'est un texte aussi qui a fait beaucoup de mal, en fait. Bon, revenons à Genèse 19. Donc, ce n'est pas par hasard, à mon avis, que nous avons de nouveau une histoire de vin. Moi, je reviendrai dans un petit instant. Et de nouveau... Les filles, comme Lot avant, se trouvent dans une situation de double contrainte. Il y a à la fois l'interdit de l'inceste, qui n'a pas besoin d'être écrit, c'est quelque chose en fait qui s'impose à toutes les sociétés. Évidemment, on peut toujours gérer des exceptions, mais l'inceste, c'est un des fondements des sociétés. Mais à l'autre côté, il y a ce besoin de la descendance. Donc comment gérer les deux ? Qu'est-ce qu'il faut valoriser ? Le plus. Donc là, de nouveau, nous avons une décision qui met les auteurs ici dans une situation qui nous paraît moralement un peu compliquée, mais qui en même temps montre un dilemme éthique que les anciens aimaient apparemment traiter. Donc, je vous ai déjà parlé de la caverne. Pourquoi est-ce qu'on parle de la caverne ? D'abord, pour deux raisons. D'abord, parce que, si vous vous souvenez du début de l'histoire de Lot, quand il s'était installé du côté de Sodome, en Genèse 13, nous l'avons vu l'année dernière, quand ils étaient installés là, on disait c'était comme le jardin de Yahvé. C'était comme le paradis, en fait, tellement c'était beau. Et maintenant, il finit dans une caverne. Donc il y a, si vous voulez, une sorte de descente, en fait, de Lot qui est... qui est signifié. En même temps, la caverne, c'est évidemment aussi un lieu où, normalement, un être civilisé n'habite pas. Donc il y a peut-être aussi une indication de ce qui se passe dans la caverne. Se passe un peu aux limites de la civilisation. Et on pourrait encore se poser la question, mais là, de nouveau... La semaine dernière, on m'a dit que j'étais un peu spéculatif là, quand je vous ai parlé des matzot, donc là, je vais continuer un peu les spéculations. Connaissez peut-être l'histoire de Dionysos. Alors, Dionysos est très intéressant quand on repense au vin, de nouveau, parce que Dionysos, c'est en fait le fils de Zeus et d'une humaine, et qui va s'enfuir, en fait, de la femme de Zeus, et il se réfugie justement dans une grotte, dans une caverne, si vous voulez, où il plante la première vigne et fait goûter son vin à ses nourrices, et selon différentes traditions, ça introduit aussi toutes sortes de coucheries et des transgressions sexuelles. Alors, est-ce que l'auteur de ce texte a déjà connu ces traditions-là ? Ce n'est pas totalement impossible. C'est difficile à prouver, mais néanmoins, c'est quand même une possibilité. Alors, donc, l'histoire débouche sur deux étymologies, des étymologies des deux voisins d'Israël, de Juda, Moab, qu'on va expliquer avec un jeu de mots. Moab, on va dire, c'est du père, Min-Av, donc normalement, ça devrait être Me'av. Donc évidemment, ce n'est pas la vraie étymologie de Moab, qui d'ailleurs est très, très discutée. Il y a plusieurs théories, ce que signifie vraiment Moab. Il y a ceux qui voulaient le mettre en relation avec une racine qui veut dire désiré, donc un pays désirable, Moab. On trouve une autre explication à partir des textes d'exécration égyptiens, mais bon, je ne vais pas insister là-dessus. Et puis, deuxième, Ben-Ami, donc les Ammonites, fils de mon parent. Hein, fils de mon parent, ce qui, évidemment, donne le nom des Ammonites. Et là, peut-être, en effet, cette étymologie populaire n'est pas totalement... à côté par rapport à la signification du nom Ammon. Ammon, vous avez encore la survivance de ce nom dans la capitale actuelle de la Jordanie, Amman, n'est-ce pas ? Amman, c'est rien d'autre qu'Ammon, donc ça survit donc, depuis le deuxième millénaire, avant jusqu'à aujourd'hui. Il y a peut-être un lien, en effet, avec Am, le peuple, le clan, le parent. Ce qui est intéressant, que les Ammonites, souvent, ils sont appelés le Bené, Ammon, les fils de. Alors du coup, on pourrait aussi se poser la question si Ammon n'a peut-être aussi plutôt un sens de nom propre, mais peu importe. Donc vous savez que souvent, les étymologies populaires s'inquiètent très peu de la vraie signification du mot qu'on ignore souvent. Bah, comme aujourd'hui, je sais pas, dans la ville de Berne, par exemple. La ville de Berne, on va le mettre en relation avec le bear, l'ours. Mais ça n'a certainement aucun lien. Mais on va vous montrer à Berne les ours, n'est-ce pas, qui deviennent le symbole de Berne. Et donc, vous savez que les étymologies populaires souvent prennent en fait ou s'imposent face à la vraie signification d'un nom. Ce qui est important ici, c'est justement... une réflexion sur les liens ambigus entre Israël et les voisins de l'Est. Alors, vous avez dans la Bible des textes assez différents par rapport aux liens avec les Moabites et les Ammonites, n'est-ce pas ? en Deutéronome 23, c'est très, très négatif, plus jamais entrera un descendant dans l'assemblée du Seigneur, un descendant des Ammonites et des Moabites. En Deutéronome 2, c'est beaucoup plus respectueux, où en fait on dit aux Israélites, vous n'allez pas prendre possession de ces pays-là parce que Yahvé l'avait donné à Lot, ce qui est très intéressant, parce que dans la Genèse, on n'a pas du tout ça. Donc ça, il y a encore une autre tradition, mais qui est beaucoup plus respectueuse. On dit, c'est un don qui est donné à l'ancêtre de ces peuples, l'ancêtre dont l'origine reste aussi très mystérieuse. Et puis, il y en a surtout un texte qui est très intéressant, c'est le livre de Ruth, n'est-ce pas ? Le livre de Ruth, où, en effet, vous avez, Ruth, une Moabite, qui devient l'ancêtre du roi David. Donc David est dans, si on suit le livre de Ruth, David est un quart, je crois, c'est un quart, n'est-ce pas ? Il est un quart Moabite. Donc ce que, mais donc ce texte met en relation ce lien qui peut être difficile avec les voisins de l'Est. Alors est-ce qu'on se moque de l'origine des Moabites et des Ammonites? Ça, c'est de nouveau un peu une question, je dirais presque d'interprétation personnelle, parce que dans la narration, il n'y a pas, si vous voulez, de moquerie évidente. Les commentateurs la voient tout le temps. À mon avis, ce n'est pas aussi clair que cela. Donc, c'est plutôt, en effet, une réflexion sur des transgressions peut-être parfois difficiles, nécessaires, et c'est aussi une réflexion sur le fait que, via Abraham, qui, si vous vous souvenez bien, est l'ancêtre, donc, pardon, l'ancêtre, et soit le frère, soit l'oncle, selon le texte de Lot, on est aussi en lien de parenté avec Moab et Ammon, et même si ce lien ne sont pas toujours très simple. Voilà, alors nous avons juste encore le temps, si vous voulez bien, de commencer, de commencer en fait maintenant un autre thème qui est très important, le thème des alliances que Dieu conclut avec Abraham. C'est là où vous pouvez sortir vos feuilles. Donc, ce qu'on va faire maintenant, comme ça, la semaine prochaine, on ira un peu plus vite, c'est prendre connaissance déjà de ce texte qui, maintenant, en fait, pose la question, c'est une question quand même très intéressante, très importante, double question, qui est toujours débattue aujourd'hui, c'est la relation entre Isaac et Ismaël, les deux fils d'Abraham. Est-ce que Isaac a des privilèges par rapport à Ismaël? Ça, c'est la lecture traditionnelle judéo-chrétienne. Est-ce vrai ou non? Et l'autre question par rapport à la possession du pays. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est ce don de pays à Abraham? Donc ça, c'est deux thèmes qui ne sont pas seulement intéressants pour la compréhension du texte, mais qui ont aussi, eu un grand impact jusqu'à aujourd'hui dans des débats théologiques, mais aussi idéologiques et politiques, il faut bien le dire, par rapport à ces histoires d'Abraham qui, parfois, se fait, en effet, instrumentaliser pour toutes sortes de revendications. Et là aussi, je pense qu'il est important de lire d'une manière aussi objective que possible, bien sûr. Il n'y a pas de neutralité absolue, mais il faut d'abord essayer de comprendre le texte avant qu'on fasse des interprétations sauvages. Donc on va brièvement encore regarder ce texte. Alors je vous propose en fait qu'on regarde 17 et 21, 1 à 7 ensemble, puisqu'en 21... Vous allez le voir tout de suite, c'est la naissance en fait du fils qui est annoncé, donc ça fait un ensemble. Lorsque Abraham avait 99 ans, Yahvé apparut à Abraham et lui dit : Je suis El Shaddai. Alors nous allons poser la question : ce que signifie El Shaddai ? Marche devant ma face et sois intègre. Je veux mettre en place, en fait, littéralement, c'est je veux donner, le verbe Nathan qui est utilisé plusieurs fois dans ce texte. Je veux mettre en place mon alliance. Alors, alliance, c'est aussi un terme compliqué. Je dirai deux mots la semaine prochaine. Traité, contrat. Je veux mettre en place mon alliance entre moi et toi. Je te rendrai nombreux d'une manière extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu parla ainsi avec lui. En ce qui me concerne, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On n'appellera plus ton nom Abraham, mais ton nom sera Abraham. En effet, je te fais père d'une multitude de nations. Donc en hébreu, c'est Avhamon qui doit expliquer le nom d'Abraham. Donc il y a un changement de nom qui est important dans ce texte. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance, de nouveau, j'établirai maintenant avec la racine élevée, cum, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta descendance après toi, dans ces générations, comme une alliance éternelle, perpétuelle, pour être Dieu pour toi et pour ta descendance après toi. Donc ce n'est pas un très bon français, mais j'ai essayé de rester aussi proche que possible au texte. Je donnerai à toi et à ta descendance après toi le pays où tu séjournes comme immigré. Tout le pays, donc tous les pays de Canaan. Et là, c'est justement toute la question comment il faut traduire. Faut-il traduire en possession ou faut-il traduire en usufruit, en concession ? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est justement le problème de la traduction. Achouza. En concession, en propriété perpétuelle, on en discutera la semaine prochaine. Et je serai Dieu pour eux. Dieu dit à Abraham, quant à toi, donc d'abord c'était quant à moi, maintenant, quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et ta descendance après toi, dans toute leur génération. C'est mon alliance que vous garderez entre moi et entre vous, et entre ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Donc l'origine de la circoncision. Vous vous ferez circoncire la chair de votre prépuce. Ce sera un signe d'alliance entre moi et entre vous. À l'âge de 8 jours, sera circoncis tout mâle parmi vous, dans toutes vos générations, celui né dans la maison, ou celui acquis avec de l'argent de n'importe quel étranger et qui n'est pas de ta descendance. Ça, c'est intéressant aussi. Sera certainement circoncis celui né dans ta maison et celui acquis avec de l'argent. Ainsi, mon alliance deviendra dans votre chair une alliance perpétuelle. Un incirconcis mâle qui n'aura pas été circoncis dans la chair de son prépuce. Sa personne sera coupée de son peuple, sera retranchée de son peuple. C'est mon alliance qu'il a rompue. Alors là, il y a des manuscrits qui ajoutent le 8e jour, mais c'est simplement pour harmoniser avec le verset 12. Dieu dit à Abraham, en ce qui concerne Sarai, donc on avait d'abord en ce qui concerne moi, donc Dieu, en ce qui concerne toi, et maintenant, en ce qui concerne Sarai, ta femme, tu n'appelleras plus son nom Sarai, en effet, son nom sera Sarah. Là aussi un changement. Je la bénirai. D'ailleurs, je te donne d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples seront à partir d'elle, se mettre en place à partir d'elle. Alors là, on voit en fait très bien que ça a dérangé beaucoup de traducteurs. La Septante, le Syriaque, donc la Peshitta, la Vulgate, n'ont pas dit que, en fait, c'est elle qui deviendra des nations, il, évidemment, le fils, n'est-ce pas ? Donc là, mais ça, c'est disons, sorte de correction patriarcale qui, à mon avis, n'est pas nécessaire au niveau du texte, n'est-ce pas ? Parce que le texte veut justement mettre en parallèle Abraham et Sarah. Donc je pense qu'il ne faut pas changer le texte, il faut le laisser tel qu'il est. Abraham tomba sur sa face et il rit. Donc on connaît tous le rire de Sarah. Ici, vous avez déjà le rire d'Abraham, n'est-ce pas ? Qui précède en fait le rire de Sarah quand on lit le texte tel que nous l'avons. Donc il se dit en son cœur, naîtra-t-il ou engendre-je, ça c'est les traductions, c'est la Samaritain, mais c'est juste une facilitation. Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans ? Ou Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle ? Donc là, il y a un petit problème grammatical que je mets pour les hébraïsons, mais qui n'a pas besoin de nous intéresser maintenant. Et Abraham dit, et ça c'est le seul verset où il ne dit pas à Elohim, mais il dit à Ha. Elohim, avec l'article. Donc Abraham dit, ce que je traduis à la divinité, qu'Ismaël vive devant ta face. Donc sa question d'Ismaël. Dieu dit, pourtant, Sarah, ta femme, va t'enfanter un fils, et tu appelleras son nom Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai écouté. Voici, je le bénis, je le rends fécond et je le rends nombreux d'une manière extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, je l'établirai avec Isaac que Sarah enfantera pour toi à cette époque l'année prochaine. Lorsqu'il a achevé de parler avec lui, Dieu monta au-dessus de lui. Donc, il remonte au ciel. Abraham prit Ismaël, son fils, ainsi que tous ceux nés dans sa maison et tous ceux acquis avec de l'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Il circoncit la chair de leur prépuce ce même jour, selon ce que Dieu lui avait dit. Quant à Abraham, il avait 99 ans lorsqu'il fut circoncis dans la chair de son prépuce. Là, les rabbins se sont posé la question, mais qui a circoncis Abraham ? Quant à Ismaël, son fils, il avait 13 ans lorsqu'il fut circoncis dans la chair de son prépuce. Ce jour même, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les hommes de sa maison, ceux nés dans la maison et ceux acquis avec de l'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Voilà, ça c'est la fin de 17, mais il y a des fortes chances que ce texte-là était suivi directement d'une partie au moins de Genèse 21. C'est pour cela que je me dis que c'est bien de le faire à la suite, donc je vous le présente brièvement. Quant à Yahvé, il s'occupa de Sarah comme il avait dit. Yahvé fit pour Sarah comme il avait parlé. Sarah devint enceinte et enfanta pour Abraham un fils pour sa vieillesse à l'époque que Dieu lui avait dite. Abraham appela le nom de son fils qui lui était né, que Sarah avait enfanté pour lui, Isaac. Abraham circoncit Isaac, son fils, à l'âge de 8 jours, comme Dieu lui avait commandé. Abraham était âgé de 100 ans lorsque Isaac, son fils, lui fut né. Sarah dit, « Dieu a suscité pour moi un rire. Quiconque l'entendra rira à mon sujet. » C'est très intéressant, n'est-ce pas ? Parce que là, maintenant, on retrouve le rire de Sarah. Alors qu'en Genèse 17, c'était le rire d'Abraham. Et puis là, maintenant, c'est Sarah qui, on a l'impression, a presque une sorte de combat. À qui appartient ce rire ? Est-ce qu'il appartient à Abraham ou est-ce qu'il appartient à Sarah ? Parce qu'il y a déjà Genèse 18. Et après, dans ce texte sacerdotaux, on n'est pas tout à fait sûr qui. Parce que là, derrière, qui a donné le nom à Isaac, n'est-ce pas ? Puisque Isaac, évidemment, est lié à ce thème du rire. Elle dit, qui aurait annoncé à Abraham que Sarah allaiterait des fils ? Oui, j'ai enfanté un fils pour sa vieillesse. Voilà le texte qui va nous intéresser la semaine prochaine. Et ensuite, pour que vous puissiez déjà voir un peu la suite, nous allons prendre l'autre texte de l'Alliance que je vais mettre à votre disposition, que vous pouvez déjà l'étudier, Genèse 15, où en fait... c'est une toute autre alliance qui va se mettre en place avec Abraham. Et puis ce qui sera intéressant ensuite, c'est évidemment aussi de comparer les deux textes. Mais tout d'abord, ce texte va nous occuper quand même un petit moment parce qu'il pose beaucoup de questions sur la terre, sur Isaac, sur Ismaël, sur la circoncision, sur le rire, sur beaucoup de choses. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.